Le matin. Ah,
pour les plus vieux, sacrement, Suzy.
Et que oui.
Suzy Lambert, Pierre Lambert, Denis Mercure, Marc Gagnon. Toi, Marc Gagnon. Ah, il va nous manquer. J'ai pogné un coup de vieux, je t'en parlais tantôt en ouverture de show. 78 ans.
Ouais.
Puis, tu sais, nous autres, on n'a pas l'impression, chaque individu, là, bon, mis à part le matin quand on se lève, mais on n'a pas l'impression qu'on vieillit.
Non.
Tu sais, j'ai encore la tête des fois, bon, quand je prends une ou deux Coors Light, d'un gars de 25 ans.
Ah, moi, t'sais, je me considère encore souvent comme un gars de 25-26.
Capable de faire des conneries encore.
Au ciboire avec ma gang de chums, on aurait dû passer, on était tous redevenus à 20. Là.
C'est ça.
Peut-être le jurer.
Mais Marc Gagnon, Marc Messier, pardon, 78 ans. J'ai trouvé ça. Tabarouette, ça me fait vieillir.
Ouais.
Puis popé, parce que nous autres, on l'a connu jeune. On était jeune, on l'a connu jeune dans l'an 50.
C'est ça.
Là, il arrive, puis il avait pas de l'air d'un gars de 78 ans.
Non,
il avait l'air d'un
tout.
Gars de 60 ans. Moi, j'ai vu la pièce Brou. Je dois l'avoir vu. 4-5 fois, certains?
Moi, je l'ai vu deux fois. J'ai adoré. La première fois que je l'ai vu, c'était en 95.
Puis il avait de l'air d'un jeune homme encore.
Ben oui.
Il a commencé... Peut-être, Max, tu peux vérifier, mais je pense qu'il a commencé Brou, là, la pièce de théâtre Brou, en 78.
79, j'ai vérifié hier.
79? Tabarouette.
Je suis né en 79.
C'est fou raide. quelle carrière, pareil. C'est-tu 78? 79?
Ouais, ben, je, vu que moi, j'ai fait confiance à Jeff. Ouais. Quand Jeff dit un chiffre, moi, je m'obstinerai pas.
On va arrondir fin 70, tu sais.
Tiens, c'est bon, ça.
Puis, il vira encore des dernières années, là.
Ouais.
Là, il en reste juste un de Brou qui est encore en
vie. Oui, parce que Michel Côté était décédé il y a 2 ans ou l'année passée, Michel Côté?
Ça doit faire un bon 2 ans.
Ça me fait 2 ans.
Un bon 2 ans, certain. Fait qu'il reste l'autre qui a juste fait ça de sa vie.
Ouais, 2023 même.
2023,
hey, Kim, ouais. OK.
Ça passe vite. Ça passe
mais
vite. Hey, on vous en souhaite une super de belle journée aujourd'hui. C'est 18 degrés sur Québec actuellement. Pour aujourd'hui, ce sera une belle journée ensoleillée. Peut-être un peu de nuages cet après-midi, c'est ce qu'on nous mentionne. Maximum de 30. Avec l'humidex, ça pourrait monter jusqu'à 35. Max, ce soir, cette nuit, c'est généralement nuageux avec 40% de probabilité d'averse. Peut-être même risque d'orage tôt ce soir. Un minimum de 20 degrés. Pour ce qui est de demain, jeudi, le topo a un peu changé. Ce sera des nuages en journée avec des probabilités d'averse à 40% maximum de 27. Vendredi, ce sera ensoleillé avec un maximum de 25. Samedi, dimanche, pour l'instant, là, ça n'a pas changé. C'est plein soleil, les amis. Profitons-en. All right, Max, sur la route.
C'est quand même vraiment pas si pire ce matin, le ralentissement habituel sur la 20 ouest, hauteur Taniata. Un petit peu d'attente pour la porte nord. Puis sur la rive nord, ben, ça roule encore.
Les actualités, Leclerc Communication.
En ce 8 juin 2026, 7h09, tu nous parles de quoi?
C'est beaucoup, beaucoup d'actualités municipales ce matin parce que, bon, il y a eu un genre d'éclipse médiatique avec le décès de Marc Messier. Hier, c'était jour de conseil à Québec. Fait qu'on a repris beaucoup de ce qui s'est dit dans les points de presse pré-conseil, notamment. Et c'est beaucoup ce qu'il y a dans les journaux ce matin. Quelques sujets, donc, qui ont retenu l'attention. Le projet de troisième lien Québec-Lévis qui est revenu. Pour le maire de Québec, Bruno Marchand, on ne construit pas un pont sur un ressenti, mais on peut décider de construire sur des arguments économiques de mobilité. Il répondait au chef de l'opposition officielle, Stéphane Lachance, qui lui mentionnait là, juste auparavant aux journalistes qu'il n'y avait pas d'études scientifiques, mais qu'il appuyait un projet de troisième lien selon son ressenti. Dans un autre ordre d'idées, Bruno Marchand qui s'est engagé à faire d'une priorité la sécurité routière dans le secteur de Beauport, où un jeune cycliste de 11 ans a perdu la vie après avoir été happé la semaine passée. L'administration va tout faire ce qu'il est possible de faire en s'assurant que ça va avoir des effets, promet-il. C'est un enjeu qui a notamment été amené au conseil par la conseillère de respect citoyen Mélanie Sauvage.
Tu sais, ça vient un peu de Bernard Drainville qui est un peu tanné là, des 10 experts.
Oui.
C'est tout le temps les 3-4 mêmes experts qui sont consultés. C'est toujours les mêmes noms qui reviennent, des gens qui sont anti-troisième lien. Puis on a reçu, il y a de ça quelques semaines, peut-être 3 semaines, Pascal Paradis qui était en studio. Puis t'sais, je peux pas présumer que ces gens-là sont de mauvaise foi, là. Mais quand j'arrive le samedi puis le dimanche à hauteur des ponts puis il y a du trafic, Jeff, ça me met sans connaissance. Je me dis, est-ce que ces gens-là vivent la même chose que nous?
En effet.
Parce qu'eux sont persuadés qu'avec le tramway, ça va régler une partie du trafic. Mais le samedi puis le dimanche, là, qui va aller faire Rive-Nord, Rive-Sud en transport en commun? Ça ne réglera pas le problème. Fait que quand on nous dit on se fie sur l'avis des experts, Christy, embarquez dans votre voiture.
Je vais te nommer des grands projets du RTC, OK? Le 803, la création ici sur le Bourgneuf. Augmentation d'achalandage, 4,5 %. C'est le meilleur. Le 804 a été créé en partant du coin de Loretteville pour s'en venir directement à Sainte-Foy. 1,6 % d'augmentation d'achalandage. Même chose pour quand le 807 a remplacé le 7, à peu près 2 % d'augmentation d'achalandage. Puis là, eux, ils nous disent, je vais mettre un tramway, c'est 30 % plus d'achalandage. C'est impossible.
Tu sais, depuis les années 80, les chiffres, ils mentent pas, là. C'est 6, 7, 8, 9 %, 6, 7, 8, 6, 7 % de gens qui prennent le transport en commun.
Il y a une année exceptionnelle que ça a été un peu au-dessus de 10 %. C'est les fêtes du 400e en 2008.
C'était les fêtes
parce que là, il y a eu plein d'événements spéciaux qui font en sorte que les gens se sont rabroués vers l'autobus. Mais je sais, je travaillais au RTC. J'étais à peu près à 11 % en 2008. C'est tout de suite tombé à 8 % en 2009.
En semaine, je pense que ça va aider en ville s'il y a plus de gens qui prennent le tramway. Puis c'est sûr que les touristes qui veulent se promener, s'ils sont capables de le faire, s'ils veulent visiter des choses qui sont sur le chemin du tramway, ça se peut que ça l'aide. Mais en bout de ligne, ça ne réglera pas le samedi puis le dimanche le gros trafic. Ça ne réglera pas le trafic le matin à Québec puis le trafic le soir à Québec. Mais ils sont là en disant, nous, on n'y croit pas. OK, parfait. Mettons que j'ai Pascal Paradis devant moi, là. C'est ça que je vais dire la prochaine fois. Parfait, vous n'y croyez pas. Christy, vous proposez quoi?
C'est ça.
Vous n'avez rien à dire, à part que le troisième lien, c'est pas une bonne idée. Mais si vous n'avez rien à dire, vos gueules!
Ouais. On va abaisser le tablier du pont de Québec. T'es pas un ressenti quand t'es pris dans le trafic la fin de semaine. Puis moi, je trouve pas que c'est un ressenti quand je regarde le vieux pont de Québec puis je me dis « Ouais, ça serait bon qu'on ait une nouvelle infrastructure parce qu'il est tout rouillé. »
Il arrive une panne sur le pont, on tombe dans la marbre la fin de
semaine. C'est pas un ressenti, ça, non plus. C'est la réalité. Puis je peux pas croire que construire un pont, c'est aussi compliqué. Pourquoi c'est devenu politique? C'est un pont, c'est une infrastructure, on veut que des chars, des camions passent dessus.
C'est comme si on était l'emblème de l'environnement. Là, Montréal prend le troisième lien là, sous son aile en disant « On est tellement une province qui respecte l'environnement
t'as raison.
Que c'est pas vrai qu'à Québec, ils vont en troisième lien. » Mais c'est parce que c'est une infrastructure dont on a besoin.
Ben oui.
Un, pour notre sécurité, mais de deux, pour essayer de libérer un peu ce qui se passe à hauteur des ponts, que ce soit du lundi au vendredi et du samedi au dimanche.
Mais t'as raison. Tu sais, le Bloc québécois qui dit « Nous représentons les Québécois au fédéral. » Qu'est-ce qui t'a donné pendant une demi-heure, Yves-François Blanchette, un discours environnementaliste?
Ouais. Mais il propose rien. T'sais, Pascal Paradis, que le PQ là, devrait travailler là-dessus, proposer quelque chose. Vous êtes contre le troisième lien? Parfait, proposez quelque chose. Dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire la fin de semaine pour empêcher qu'il y ait du trafic comme ça. Proposez-nous quelque chose. Vous pouvez vous opposer, ça, j'ai pas de trouble. Mais dites-nous par quoi compenser, par exemple.
Ben oui.
Mais ils le font pas. Max?
Le piquant, puis là, je vais de mémoire, puis j'ai cherché 27. Il embarquait-tu dans... C'est vraiment de la mémoire dans le fameux plan cité qui est éventuellement une des phases, c'est le tunnel, transport en commun, centre-ville à centre-ville. D'après moi, le PQ avait tendance à beaucoup se coller sur ce plan cité-là.
Oui, tu sais, d'un autre côté, j'ai eu Chloé Fauchon, la candidate dans le Weber hier en entrevue en Angers. Quand j'ai demandé, êtes-vous pour les phases 2 et 3 du tramway? Elle m'a répondu, ça sera à voir.
OK, bon.
Fait que, mais t'es bon, elle vient d'arriver. Pascal Paradis m'a déjà parlé de ce lien-là, là, entre lien centre-ville, centre-ville, transport en commun. Le Parti libéral, Charles Milliard, m'a confirmé qu'eux autres, c'était all the way le plan tram-cité. Donc, phase 2, phase 3, le corridor au centre, mais il veut du troisième lien aussi.
Et puis, je m'inspire d'un auditeur qui nous écrit actuellement au 418-971-1021. C'est comme si l'avenir des changements climatiques mondiaux passait par un petit pont à Québec.
Là. Non, mais c'est vrai.
C'est comme...
Ça n'a aucun sens.
Vous nous sacrez à paix. On en veut juste un de plus parce que le deuxième, il est magané. Ou bien le premier est magané.
Ben oui, puis de toute façon, quand on regarde les grandes villes en Amérique du Nord, ils ont un périphérique comme on veut faire avec le troisième lien. Je veux dire, c'est pas du ressenti, ça non plus, c'est du data. Là, la grande majorité des villes ont ça.
Ouais, mais on a l'Alaska à sauver, là.
Le maire qui a aussi répondu au dossier de Radio-Canada qui porte sur la répression policière contre les personnes en situation d'itinérance. Il n'y a pas l'intention de changer les directives données aux policiers. C'est tolérance zéro pour les campements. Elle dit que ça fait 3, 4, 5, 6 fois qu'elle essaie d'appliquer quelque chose, ben tu prends les moyens qu'il faut. Puis c'est pas parce qu'on est une personne itinérante qu'on a le droit de tout faire. Une couple d'entrevues éditoriales aussi données par le maire Marchand là, dans le cadre de la dernière semaine de conseil municipal. Puis son axe de communication principal semble assez clair. À l'effet que la ville de Québec devra être au cœur de la prochaine campagne électorale provinciale. En entrevue avec le Journal de Québec, il lance que les partis et les chefs réalisent qu'on ne peut pas faire sans la capitale nationale. Québec est incontournable. Les partis sont au courant que le nombre de sièges qui sont ici, ben, ça peut faire une différence dans un gouvernement. En entrevue avec Le Soleil, M. Marchand note que les 5 partis ont des chances de faire élire au moins une ou des personnes dans la région. Il parle de Québec comme d'une ville à prendre, puis ce que ça veut dire pour lui, c'est ayez dans vos idées une vision, un soutien à la capitale. Il aimerait une campagne positive avec des idées. Où il dit, oui, il y a plusieurs nouvelles, mais il faut avoir de l'espoir, être capable de créer quelque chose où on donne de l'espoir aux jeunes, bâtir pour les prochaines générations. C'est à ça qu'on s'attend. Toujours, puis je vous l'avais dit qu'on tourne beaucoup dans le municipal, là, Radio-Canada ce matin qui nous rapporte que la promesse de construction de 5000 maisons en banlieue d'ici 2029 du maire Marchand, ça va pas bien dans le bon sens pour se réaliser. C'est des chiffres compilés par la SCHL qui nous mentionne que 228 maisons unifamiliales ont été construites à Québec depuis janvier. Ça nous donne un rythme de 600 ça, mises en chantier d'ici la fin de l'année. En campagne électorale, Bruno Marchand promettait la construction de 5000 maisons sur 4 ans, dont 1000 dès 2026. Fait que déjà, là, tu vois qu'il y a comme une différence de 400 entre ce qu'on voulait faire en 2026 et ce qu'on risque d'avoir. En entrevue avec Radcan, ce que Bruno Marchand dit, c'est on travaille là-dessus. La première année, c'est un peu plus difficile à réaliser, mais il pense pas que son objectif de 5000 maisons d'ici 2029 se soit menacé pour l'instant. L'affaire, c'est que les promoteurs, eux autres, c'est pas mal plus payant de construire des immeubles à logement que des maisons. Fait que là, reste à voir, c'est pas Bruno Marchand qui est bâti lui-même, là, les maisons, ça prend des promoteurs. Donc, à suivre. Les subventions aux entreprises ont explosé au Québec depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir en 2018. Je pense que c'est pas une surprise pour personne. L'Institut économique de Montréal, cité par le journal, qui note qu'en 2024 seulement, le gouvernement du Québec a accordé un record de plus de 8,5 milliards de dollars aux entreprises. Ça équivaut à 945 dollars par contribuable. Renaud Brossard, qui est vice-président aux communications de l'IEDS, lance que plutôt que d'essayer de choisir les gagnants et les perdants avec notre argent, le gouvernement devrait créer les conditions favorables à l'émergence d'entreprises performantes. La remplaçante de François Legault, Christine Fréchette, qui a promis de changer d'approche avec moins d'intervention par l'État. L'implantation du dossier santé numérique, ça revient dans l'actualité ce matin. C'est l'équipe d'enquête du Soleil qui présente un dossier titré « Le dossier santé numérique empêche les médecins de se concentrer sur le patient ». C'est dans le cadre d'un sondage envoyé par la Fédération des médecins spécialistes du Québec à 1099 de ses membres au début du mois de juin qu'on voit notamment un médecin spécialiste qui mentionne qu'en clinique externe, ben, on est préoccupé à faire fonctionner le logiciel alors qu'on devrait se concentrer sur le patient. Près de 6 médecins spécialistes interrogés sur 10 disent que le DSN nuit à leur relation avec les patients et qu'il est insatisfaisant et difficile à utiliser à cause de l'interface complexe, trop de clics pour des actions simples et une charge administrative transférée au médecin. Un médecin évoque plusieurs problèmes avec la banque de sang et les labos pour rejet de tubes. Il y a un autre qui note que les imprimantes ne fonctionnent pas correctement et se brisent en moins de 24 heures et ajoute devoir faire le travail sur le DSN en plus de faire les appels alors qu'avant, ben, c'était seulement les appels. Le gouvernement Fréchette et Hydro-Québec qui sont sur le point de s'entendre sur un accord se chiffrant en milliards de dollars avec la communauté Innu de Pessamite, tel que le rapporte La Presse. L'entente qui viendrait régler des litiges historiques en plus d'ouvrir la voie à de nouveaux projets, dont une nouvelle centrale hydroélectrique sur la Côte-Nord. Radio-Canada qui a aussi obtenu une copie du document intitulé « Entente de nouvelles relations concernant le développement énergétique » qui détaille les montants qui seraient versés à Pessamite en guise de compensation pour les projets passés qui n'ont pas obtenu de consentement à l'époque. Hydro-Québec ainsi qui verserait des compensations totalisant près d'un milliard de dollars sur 50 ans. Québec s'engage à verser près de 632 millions de dollars sur 10 ans pour régler les litiges en cours concernant les développements énergétiques depuis les années 1950. Le conseil de bande qui promet 7 milliards en retombées économiques si le projet d'entente est accepté. Il y aura un référendum dans la communauté ce dimanche.
Ça ferait bien ramener le nucléaire?
On n'aurait pas besoin de négocier autant d'argent avec ces gens-là. Et on parle de milliards dans Pfennig.
Ouais.
Comme si cet argent-là tombait du ciel. C'est du jus de bras, là. C'est du jus de bras qu'on va donner aux Inuits parce qu'on prend une partie de leur territoire.
Vraiment.
C'est tough, là. Mais on nous dit que même si c'est utilisé partout dans le monde, le nucléaire, spécialement au Québec, c'est dangereux, là.
Et François Blanchet a dit la même chose.
C'est vraiment dangereux au Québec. Max, j'ai une statistique pour toi quand même assez intéressante, puis je me pose des questions par rapport à ton avenir.
Bon.
Randstad Canada a publié une étude sur le marché de l'emploi. À ton avis, parmi tous les travailleurs canadiens, c'est quoi le pourcentage des gens qui veulent changer d'emploi dans la prochaine année?
Prochaine année? 25 % peut-être?
25. Tu trouves pas ça trop élevé?
Ben, ouais.
Je serais attendu un 10. Toi,
c'est
ben,
beaucoup.
Toi, tu irais avec un quoi? Moi, j'aurais dit un 10.
Ouais, moi, j'aurais dit un 15, mettons.
Un 15.
Mais 25, c'est beaucoup parce que c'est une personne sur 4 qui dit « Hey, mon emploi me plaît pas. »
Ouais.
Fait que qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les gens? Qu'est-ce qui se passe avec les employeurs?
Tu gardes-tu ton 25
les
ou termes, tu descends?
Les termes exacts, si tu veux changer d'emploi ou envisages de changer d'emploi? Parce que, non, mais c'est, ça fait une
ça
différence.
Ça va être correct, Bernard Pivot.
Non, mais attends, c'est parce que ça fait une différence de dire hey, « Moi, je veux changer de job » ou « Ouais, ben je pense à peut-être changer de job s'il y a de quoi de mieux ailleurs, tu sais. » Mais je vais garder mon 25 pour les biens de la cause.
C'est toi qui l'as. Okay. C'est le corps des travailleurs canadiens aïe, qui aïe, veulent aïe. Changer d'emploi. Et ce qui est hallucinant, c'est la génération Z. Est-ce que tu es de la génération Z, Max?
C'est quelle génération Z? C'est quelle année, ça?
Génération Z, c'est 97 à 2012.
Ouais, je suis dedans, je suis 2001, moi.
Donc, tu es de la génération Z.
C'est un zoomer qu'on appelle.
Moi, je suis de la...
zoomer.
Je suis de la génération X, Jeff aussi.
Ouais.
C'est capoté dans cette génération-là, la génération Z. Ce serait 42 % des gens de la génération Z
aïe,
qui
aïe.
Voudraient changer d'emploi.
Aïe, aïe.
C'est 4 jeunes
sur 10 ouais.
qui veulent sacrer le camp. Une rémunération trop faible à 48 %, ça serait les raisons de changer d'emploi. Donc, une personne sur deux juge qu'elle n'est pas assez payée pour l'emploi qu'elle fait. Un désir d'un meilleur équilibre. Ça, je pense que c'est en vieillissant qu'on met un peu plus l'accent là-dessus.
Oui.
Quoique, peut-être parce que c'est les jeunes qui nous ont montré que c'était important d'avoir un certain équilibre. On a eu des parents, nous autres, qui travaillaient des fois 7 jours sur 7. Là.
Ben oui.
Et là, on s'est dit, tiens, c'est peut-être ça le modèle à suivre. Mais là, les jeunes sont arrivés en disant, moi, un petit 35, un petit 40, ça fait bien mon affaire.
C'est puis, très de ma génération,
ouais,
ça.
Mais vous nous avez montré que l'équilibre, c'est il y a quelque chose de bon là-dedans.
Ben, tu vois, moi, là, honnêtement, là, je me situe entre les deux. Dans le sens que moi, j'ai toujours vu mon père travailler comme un déchaîné.
Ouais.
Mon père était représentant sur la route. Puis le soir, là, avec sa calculatrice manuelle, là, préparait ses contrats, préparait ses soumissions, préparait ses affaires.
C'était des machines.
Et assez que je m'endormais des fois sur deux chaises de cuisine à côté de mon père parce que je m'amusais à le regarder travailler. tu vois? Mais en même temps, maintenant que la nouvelle génération, j'essaie, même si, vous le savez, j'investis beaucoup d'heures dans mon emploi, j'essaie d'avoir un certain équilibre. Fait que mon gym, de 5h30 à 6h30, touche pas à ça. C'est à moi, ouais. Je le garde.
T'étais-tu de même avant de tomber en amour?
J'ai pas mal toujours été comme ça, je te dirais. Ouais.
Okay. Moi, je pensais que tu étais plus excessif.
Sur le travail?
Sur le travail.
Mes années au RTC, j'ai été très excessif sur le travail.
Parce que souvent, c'est, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un qui a une vie un peu plus équilibrée, tu vas essayer d'ajuster les affaires, surtout si tu vas garder.
Ouais.
Donc, 48 % des gens disent « Moi, je veux sacrer mon camp de chez mon employeur parce qu'il ne me paye pas assez. » Meilleur équilibre, c'est 40 % et le manque de perspective de croissance, c'est 34 % Des gens qui disent « Moi, je ne pourrais jamais accéder au prochain palier. » Mon entreprise n'est pas en croissance, elle est en forte décroissance.
Ouais.
Ces gens-là doivent paniquer.
Ben,
quand tu ne peux plus progresser,
c'est inquiétant.
Doit être, ouais.
C'est clair. T'sais, tout le monde veut améliorer ses conditions, surtout avec le coût de la vie qui augmente.
Ouais. Autre chiffre important. L'importance accordée au salaire passe à combien de pourcentage de la génération Z à la génération Baby Boomer? Baby Boomer, là, c'est 1946 à 1964.
Bon, ouais, ça, c'est mon père là, que je racontais.
Il reste
là.
De moins en moins sur le marché du travail. Mais quand même, la génération Z, l'importance du salaire accordé, c'est 54 % et les Baby Boomers, 77%.
Puis tu vois, moi, j'aurais pensé que pour les Zoomers, là, qui est ma génération, j'aurais pensé que ça a été encore en bas de ça.
C'est-tu les gars, là, on y va, y a pas de catégorie d'âge, c'est-tu les gars ou les filles qui valorisent plus la rémunération?
Je pense que c'est les filles.
Hein?
Ah non, c'est les gars.
Hein? OK, moi, j'aurais dit les gars.
Moi aussi.
C'est les filles.
Ah, ouais!
La vraie réponse, selon Randstad, selon leur étude, c'est 69% des femmes qui valorisent la rémunération contre 62% pour les hommes.
Il y a une couple d'affaires là-dedans, tu sais. Puis en même temps, c'était vraiment un guess que je lançais. Ça aurait pu pas être ça, mais tu sais, les filles plus à leur affaire, les budgets, tout ça. Nous autres, les gars, moi, c'est comme bon, ben, je fais tant, je m'arrange avec tant. Puis alors que les filles, peut-être, ont plus tendance à calculer puis à voir l'importance d'un. Je sais pas, c'est ma petite, mon petit deux cents.
Quelle est l'importance, encore là, en pourcentage, quelle est l'importance pour les candidats qui postulent pour un emploi d'avoir le contact en personne? Ça, c'est des chiffres de 2026. Là.
Ça, c'est toute génération confondue.
Toute génération confondue. Quelle est l'importance pour un candidat quand il postule pour un emploi d'avoir un contact en personne?
Fait que combien de personnes c'est important? Là? Quel pourcentage de personnes c'est important?
Exact.
Hey, ça doit être en bas de 20.
Ah, moi, je t'aurais dit une personne sur deux.
OK, mais là, ça... Attends un peu, là. Là, c'est tout le monde.
Ouais. Parce que, mettons, les Zoomers, là, d'après moi, ça doit être très beau.
Ça, c'est génération Z. Ouais. Ils préfèrent travailler de chez eux.
Ouais, c'est ça.
Okay.
Moi, je veux jamais travailler de chez nous.
Ouais. Moi, j'ai travaillé longtemps dans la restauration puis dans les bars, ce qui fait en sorte que le contact avec le service à la clientèle, je suis rendu extrêmement frileux. Mm-hmm. J'ai choisi une job où je rencontre pas vraiment de monde. Je suis tout le temps en studio dans mes affaires. J'ai pas à parler devant 20, 30, 40 personnes.
Ouais, mais t'as quand même des collègues de travail. T'es quand même dans un environnement de travail.
Ils le parlent pas.
Moi, je serais pas capable. Ouais. Non, je le sais.
Merci, Max.
Mais moi, je serais pas capable d'être en maison puis de juste parler en virtuel avec mes collègues de travail.
On le sait, ça.
J'ai besoin de leur présence.
Ouais. Ça, malheureusement, on le sait déjà.
Je vous aime, les gars.
C'est 7 candidats. 7 candidats sur 10 qui jugent que le contact en personne est très important.
Ah, je suis content. Ouais. Notre société se porte mieux que je pensais.
Je pensais que c'était plus bas. Mais moi, si on m'offrait la chance de faire mon métier à distance, c'est sûr que je le ferais de chez moi.
Ouais.
Avec,
hey, pas moi, je...
avec mes ordinateurs, avec mon Zoom, parce que Marceau le soir, c'est tout le temps sur Zoom. Là.
Ouais, je sais.
Puis, sérieux, moi, je trouve ça formidable.
Moi, je vais en dépression avec toujours les mêmes.
T'es pas obligé de l'accueillir, t'es pas obligé de serrer la main, surtout avec les politiciens.
Le
t'es pas obligé de faire semblant que t'es aimes et les apprécies.
Le rêve, hey, moi, mon rêve, c'est d'être toujours avec des gens.
C'est vrai?
Ben, j'ai travaillé à mettre. Hey, quand il y a eu la COVID, il fallait être en télétravail parce que le Québec était fermé.
Moi, c'était mon rêve.
Ben, pas moi.
J'étais
moi,
chez nous, je faisais mes affaires.
Je le dis à la radio, moi, j'ai transgressé les règles. Je suis allé travailler au patron parce que t'as pas le choix d'avoir des gars d'entretien qui s'occupent du bâtiment. Puis je suis allé travailler là juste pour puis les voir. Juste pour avoir du monde qui était proche de moi.
Puis quand tu t'approchais, ils se sauvaient-tu?
Pas tout, ils étaient contents, eux aussi.
All right. Les sports. Qu'est-ce qui se passe dans le merveilleux monde du sport, mon Max? Messier des Oilers serait décédé, c'est
Max,
ça?
C'est pas drôle, il est trop tôt.
Ah, excusez.
Tous les duels de quart de finale de la Coupe du monde de soccer qui sont maintenant connus. La France va affronter le Maroc vendredi. L'Espagne et la Belgique croiseront le fer. C'est demain, Maroc-France. Espagne-Belgique vendredi, Norvège-Angleterre samedi et Argentine-Suisse, ça aussi c'est samedi. Et on va se battre pour la dernière place en demi-finale au tennis. Défaite crève-cœur pour Félix Auger-Aliassime au terme du plus long match de quart de finale de l'histoire de Wimbledon. Novak Djokovic qui a finalement eu le dessus sur Félix Auger-Aliassime et va affronter Yannick Sinner en demi-finale. Dans la MLB, les Blue Jays de Toronto qui ont rebondi hier avec une victoire de 9-3 sur les Giants de San Francisco. La série qui se termine ce soir. Et pour nos capitales, retour à la maison réussi devant une salle comble au stade Canac hier. Victoire de 6-3 sur le Rocks de Brockton. Autre match ce soir, un sale comble, un mardi soir, là, faut le faire, ça montre à quel point les Capitales, ben, c'est une équipe d'exception.
Merci beaucoup. Sur la route, Max?
Ça allait quand même bien tantôt, ça va pas si mal du tout, là encore, la 20 dans les deux directions, petit ralentissement hauteur Taniata, les ponts, c'est maintenant super dégagé, il y a un R4 sud à la hauteur des travaux sur la 40 où il y a un ralentissement, et Capitale Ouest aussi, ralentissement qui s'est installé entre, je vous dirais, d'Estimoville et Laurentienne.
pour nous informer de ce qui se passe dans la